Poursuivons l'étude du mystère de la mort et du mystère de la vie, deux mystères qui se tiennent, ainsi que l'espérance chrétienne. Et nous avons dit que c'était là le message essentiel de la Bible. C'est le message de la Bible. S'il n'y avait pas cela, s'il n'y avait pas ce problème, ce grand problème de l'homme à élucider, il n'y aurait pas nécessité d'une Bible, d'une révélation de Dieu. L'homme sait peu de choses, Dieu lui parle par révélation. Et nous allons, après avoir parlé de la création de l'homme, de son corps notamment, tiré de la poussière de la terre, et qui, après la chute, selon le verdict de Dieu, doit retourner à la terre, redonner sa matière à la terre, cesser d'être vivant et retourner à la matière inerte. Voilà le verdict de Dieu. Eh bien, voyons un peu, parlons un peu de ce corps. Le corps a, dans la Bible, qui nous le montre tout simplement, sans grand discours, il a même origine que celui des animaux. Lisons Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. C'est bien ce que déjà le chapitre premier nous a dit, que tous ont été tirés, toute leur matière, la matière vivante de ces êtres que nous appelons les animaux, a été tirée de la terre. Et cette substance qui est tirée de la terre devient vivante par un souffle de vie. Un souffle de vie, une haleine de vie, et si j'emploie le mot haleine, c'est en me référant à Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voyons, n'est-ce pas, représentons-nous la chose d'une façon concrète, eh bien, telle qu'elle nous est dite, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a là une évocation, l'évocation de quelque chose de plus grand. Mais nous voyons, par exemple, Dieu, n'est-ce pas, soufflant dans les narines de l'homme. Si nous faisions cela, par exemple, eh bien, ce serait notre souffle, notre haleine, que nous enverrions dans les narines de cet être appelé l'homme. C'est donc une haleine de vie, c'est-à-dire un souffle de vie qui vient de Dieu. C'est le souffle de vie de Dieu. C'est un principe immatériel, si nous voulons élever notre vue, un principe immatériel qui vient de Dieu. Voilà déjà une vérité importante sur la vie, cette fois-ci non pas la mort, mais sur la vie. Dans les textes bibliques, les mots, la ruach ou nefesh, évoquent la respiration, l'air respiré. Cette respiration, l'air, le vent, ruach même est traduit par vent à certains moments, le vent, le souffle, l'air en mouvement, cette respiration sans laquelle le corps meurt, est la manifestation mystérieuse de cette haleine de vie qui participe au souffle de Dieu. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et ce souffle, nous disons, est un principe immatériel de vie. Il est l'esprit, car souffle devient dans la Bible esprit. L'esprit ou le souffle, ce sont, si vous voulez, deux notions qui utilisent les mêmes termes, de même dans le Nouveau Testament, pneuma, les mêmes termes. Alors, ce souffle est l'esprit qui apporte la vie. Ainsi donc, il y a eu par l'Esprit de Dieu, qui est un souffle, vu comme un souffle, il y a eu là un don, le don d'un principe de vie, ce principe qui établit la vie dans un corps qui était inerte, n'est-ce pas? La création nous montre d'abord la préparation par Dieu d'un corps fait de la substance de la terre et qui est fait d'une matière inerte, et voici que ce souffle de vie vient communiquer la vie, animer cette sorte, si vous voulez, de statue inerte, n'est-ce pas, vient l'animer de la vie. Notons ceci, c'est donc, la Bible le confirmera dans toutes ses pages, c'est donc, la vie est donc bien un principe immatériel venant de Dieu, qui est étranger à la matière, qui a pour siège la matière du corps, mais qui est étranger à cette matière. C'est très important, et la science correcte, non pas la science des préjugés, non pas la science des marxistes, car il y a aujourd'hui, l'expression figure dans des ouvrages, des biologistes marxistes. Alors, c'est la négation de toute indépendance. Si un biologiste a le préjugé marxiste, est imprégné de marxiste, donc d'athéisme et de négation, eh bien, il ne peut pas être libre de voir les phénomènes tels qu'ils sont. Ce souffle de vie, Dieu peut le reprendre quand il veut. Nous avons, pour en juger, surtout le livre de l'Ecclésiaste et le psaume 104. Prenons par exemple déjà le psaume 104. Le psaume 104 et le verset 29. Tu caches ta face. Ils sont tremblants, les êtres vivants, les animaux. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Ils redeviennent substance inerte. C'est bien donc ce souffle de vie qui maintient en vie, qui anime de la vie cette matière inerte dont les corps sont faits, tous les corps, animaux ou l'homme. Et si le souffle s'en va, il peut s'en aller, Dieu peut éventuellement le reprendre à lui, alors ils expirent, ils retournent dans la poussière, voilà la mort du corps, ces atomes redeviennent substances minérales, inertes, ne sont plus le siège de la vie. Pensons bien à cela, c'est que notre corps, comme le corps des animaux, est donc le siège, disons, d'un phénomène, si nous voulons parler un peu un langage scientifique, un phénomène, il est le siège d'un phénomène apporté par le souffle de vie, c'est-à-dire par un principe immatériel de vie venant de Dieu, qui est là à l'œuvre, dans cette matière dont il fait son siège, dont il fait son champ d'action, si vous voulez, mais ce principe immatériel de vie n'est pas, lui, lié à la matière, ne fait pas un avec la matière, n'est pas entraîné par la matière, c'est lui qui anime la matière, et s'il s'en va, cette matière ne peut pas rester à l'état de matière vivante, à l'état de corps vivant, elle retombe à son origine dans la poussière de la terre. Ainsi donc, Dieu se propose, après la chute, dit à l'homme qu'il mourra, que son corps retournera à la poussière, c'est-à-dire qu'il lui reprendra le souffle de vie. Il lui reprendra ce souffle de vie. Alors, nous avons vu le psaume 104, voyons l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, d'abord au chapitre 3, verset 18. Ce livre nous demande évidemment quelques réflexions. Nous avons eu au début de l'œuvre ici l'occasion de l'étudier. Bien loin déjà, mais nous l'avons étudié, ce livre de l'Ecclésiaste. C'est extrêmement intéressant. Verset 18. « J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. » Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Et puis nous avons au chapitre 12 de ce même livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vous voyez, là encore, l'Ecclésiaste note que la poussière va retourner là où elle était, après avoir cessé d'être animée par le souffle, et puis ce souffle qui l'a un moment, un temps animé, retourne à Dieu qui l'a donné. Ce souffle est un principe immatériel de vie, c'est, nous le voyons aussi en forme d'esprit, il intervient en forme d'esprit, c'est l'esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit de vie, l'expression figure dans le Nouveau Testament, c'est l'esprit de vie qui vient de Dieu et dont Dieu est seul, absolument seul, la source. Alors, dans le chapitre 3 de l'Ecclésiaste, nous avons peut-être là lieu d'être étonnés du langage que nous tient ce sage, car n'oublions pas que l'Ecclésiaste, c'est un écrit de Salomon, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. C'est Salomon qui en est l'auteur, et nous nous rappelons que Salomon avait été doté d'une sagesse extraordinaire dont le livre saint se plaît à nous donner toute l'étendue. Eh bien, je ne vais pas expliquer le livre de l'Ecclésiaste maintenant, mais disons ceci, qu'il y a là une vérité qu'il faut considérer, qu'il ne préjuge pas des autres vérités. Je vous ai dit que la Bible est une révélation progressive. Chaque chose est donnée en son temps. Bien sûr, Jésus a été très peu connu de bien des Juifs, très peu discerné. Ne l'ont discerné que ceux qui véritablement, comme Siméon ou d'autres, avaient une vue en avant, une vue prophétique, et étaient des gens tout à fait dévoué à l'Éternel. Mais sur le peuple d'Israël, il y avait un voile qui ne peut se lever que lorsqu'intervient le complément de la révélation donnée à Israël, c'est-à-dire le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ. Eh bien, donc c'est progressif, ne nous étonnons pas que l'Ecclésiaste nous tienne ce langage. Il dit une vérité. Elle est peut-être dite d'une façon un peu froide, là. Elle nous est livrée avec peut-être un manque total de précaution, disons, n'est-ce pas? Voilà une vérité crue, un peu crue peut-être, et qui peut nous faire un petit peu trembler. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Regardez dans leur réalité physique, les hommes, en effet, ne sont que des bêtes, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, si meurt l'autre, ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Vous voyez, cette supériorité est ici niée. C'est qu'elle ne tient pas au corps, elle ne tient pas du tout au corps. Prenons le corps des animaux supérieurs, prenons un lapin par exemple, dont on se sert beaucoup dans les études anatomiques. Eh bien, le corps d'un lapin est quasiment aussi perfectionné que celui d'un homme. Reste évidemment la question du cerveau, c'est très délicat. On peut reconnaître au cerveau de l'homme une supériorité sur celui de la bête et notamment celui, par exemple, des singes qu'on a souvent comparé à l'homme. Mais enfin, en gros, la supériorité du corps de l'homme n'est pas du tout à une chose que l'on puisse décréter lorsqu'on compare un corps, le corps d'un animal supérieur avec celui de l'homme. Et puis la mort est exactement pareille, la cause est la même, le souffle qui anime cette substance s'en va et la substance retourne à la terre. Ce qui fera la différence de l'homme, ou la supériorité, si vous voulez, de l'homme par rapport à la bête, cela sera dit ailleurs, autre part, ici, l'Ecclésiaste ne voit pas cela, lui, il parle du souffle de l'homme, fonction vitale, qui anime le corps, et cette fonction, il la voit, il la constate, et c'est une sagesse, c'est une science qu'il a, il la voit identique chez l'homme et chez l'animal. Il parle selon sa vue, selon, si vous voulez, son cœur humain, selon une vue limitée de l'homme qui regarde par lui-même, qui constate et dit, eh bien, on ne voit rien de plus, a priori, on ne voit rien de plus dans l'homme. Son être physique est pareil à celui de l'animal. Bien sûr, l'Ecclésiaste a entrevu autre chose, mais nous avons dit, quand nous avons étudié ce livre, l'utilité de ces constatations. C'est entré dans le canon des Écritures, ce livre est canonique, est inspiré autant que les autres, Dieu l'a voulu ainsi. Mais dans la Bible, cela m'amène à vous dire quelque chose. Il faut savoir lire la Bible, sous prétexte que la Bible est inspirée, n'est-ce pas? On la lit avec des idées fausses. On ne comprend pas bien ce qu'a fait l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et l'inspiration, elle est au mot près. Nous sommes obligés de l'admettre ainsi, parce que le Seigneur Jésus nous l'a montré lui-même. Elle est au mot près. Alors, nous ne comprenons pas bien la conséquence de l'inspiration de l'Écriture. Et nous voudrions que tout dans l'Écriture soit précepte divin. Eh bien, si tout était précepte divin, et que, par conséquent, nous ayons tout à faire, nous ferions des choses terribles. Tout n'est pas à faire, bien sûr. La Bible ne nous dit pas d'imiter tout ce qu'elle relate. Il y a des choses qu'elle relate pour que nous les jugions, justement. Pour exercer notre jugement, pour nous instruire. Il y a des assertions qui ne sont pas à reprendre dans différentes parties de l'Ancien Testament particulièrement. Il faut savoir lire la Bible, non pas détacher un verset et puis dire « ce verset dit cela » et puis voilà, ben je vais faire cela. mais non, vois le contexte, vois pourquoi la chose t'est dite ainsi, pourquoi elle est relatée. Tu ne vas pas imiter, par exemple, le péché de David. Tu ne vas pas imiter la conduite de Salomon à la fin de son règne. Il y a un tas de choses qui te sont dites. Le diable avait écrit une Bible, oui, il en a écrit quand même, mais enfin, elle s'appelle autrement. Les livres, ils s'appellent autrement les livres que le diable a écrits et sont innombrables. Eh bien, s'il avait écrit un livre s'appelant Bible, il aurait agi tout autrement que Dieu. Il aurait châtié, exclu tout ce qui pouvait assombrir la perspective que l'on doit avoir sur les personnages, sur ses auxiliaires qu'il présenterait, n'est-ce pas? Et il mentirait. Bien sûr, il mentirait quant à leur vie, tandis que Dieu ne ment pas, c'est le livre de la vérité. Dieu nous expose la vérité, ce qui a été bon, ce qu'il faut imiter et ce qu'il ne faut pas imiter, bien sûr, dans l'histoire qui nous est relatée. Ainsi, l'homme, et qui est, nous l'avons vu, âme vivante, fait comme l'animal l'expérience de la mort physique, de la mort visible. Il fait cette expérience. Le psaume 89, verset 49, nous dit ceci, « Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ?» Tous sont destinés à la mort, c'est le chemin de toute la terre depuis la chute dont nous aurons l'occasion de parler assez en détail. Cette mort physique est ainsi vue d'abord dans la Bible même de l'extérieur. Elle est vue comme le monde peut voir ce terrible événement qui fait tomber les hommes. Elle est vue, en somme, au niveau de la terre. Il y a là une dissolution de la chair avec disparition du souffle de vie. Et la question importante, essentielle, qui fera la différence qui est énorme, très grande, entre l'homme et les animaux, a simplement été esquissée dans la Genèse, et puis cette différence va apparaître de mieux en mieux au fil des pages et au fur et à mesure que la révélation de Dieu se complétera. Mais n'allons pas trop vite. Nous allons entrevoir maintenant ceci, c'est que dans l'Ancien Testament, il est question de l'âme, il est question de l'âme humaine. Et l'âme humaine, ce n'est plus tout à fait le souffle de vie, bien que ce ne soit pas loin, ce n'est plus tout à fait cela. Si le corps se dissout et s'il redevient poussière inerte, il y a quelque chose dans l'homme qui subsiste, et non pas dans l'animal. Il y a quelque chose qui subsiste, et ce quelque chose, on l'appelle d'abord l'âme. L'âme. Alors, si le corps retourne à la poussière de la terre, il y a donc dans l'homme une partie, quelque chose, il y a un élément qui, lui, n'est pas entraîné dans la dissolution de la matière et qui s'appelle l'âme. Alors, il faut tout d'abord recueillir cette pensée que l'âme survit au corps et cela indépendamment de lui. L'Ancien Testament le laisse entendre, alors nous allons rapidement feuilleter les pages et regarder des textes. nous sommes résolus, n'est-ce pas, à nous instruire par le moyen de la Bible. Le psaume 6, verset 6, verset 5, nous y lisons « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. » Voyons apparaître cette expression « séjour des morts » appelée dans l'Ancien Testament le « Sheol » et dans le Nouveau Testament, ce même « séjour des morts » est appelé le « Hadès ». Le Sheol et le Hadès. Nous le voyons apparaître ici, et l'expression « séjour des morts », Sheol, figure beaucoup de fois. Lisons maintenant le psaume 16 et verset 10. 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Il y a là une parole qui est reprise par l'apôtre Pierre dans le livre des Actes pour parler de la résurrection du Seigneur Jésus. Elle est directement appliquée au Seigneur Jésus. Le psaume 30 et verset 4. « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Il y avait là une action de l'Éternel relevant David, lui faisant échapper à ses ennemis, et c'est ainsi que David s'exprime: Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Certains considèrent ici que le mot âme, et dans bien d'autres passages, signifie ma vie. Tu as fait remonter ma vie du séjour des morts. Il est évident que dans l'Ancien Testament, il y a une grande difficulté avec ce mot âme qui vient dans nos traductions en français. Une très grande difficulté. C'est pourquoi il faut lire les textes, il faut en lire beaucoup, il ne faut pas se hâter de conclure, d'établir des doctrines, il faut au contraire se laisser instruire par les textes bibliques et laisser l'Esprit de Dieu former dans notre cœur une notion qui sera certainement bonne. Le psaume 49, verset 16. « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Sauvera mon âme du séjour des morts. Et le séjour des morts ne désigne pas la tombe, le sépulcre. Évidemment, il y a une certaine connexité entre le sépulcre que l'on établit dans la terre, qu'en général, ou dans un rocher, mais il y a aussi, n'est-ce pas, le sépulcre ordinaire dans la terre, un trou creusé dans la terre, où l'on met le corps qui a cessé de vivre, et il y a une certaine connexité avec l'idée du séjour des morts qui est vue comme située dans les profondeurs de la terre. Mais il n'empêche que se dégage de l'écriture de l'Ancien Testament l'idée d'un lieu, d'un séjour des morts. Ce séjour des morts est lui-même enveloppé de mystère et restera enveloppé de mystère. Nous arrivons là à l'au-delà, ce qu'on appelle l'au-delà de la vie terrestre, et là nous savons tout juste, le Seigneur nous a révélé tout juste ce qui était nécessaire pour nourrir notre espérance d'une résurrection et d'une vie future délivrée de la mort. Le psaume 139, le psaume 139, verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Là, le psalmiste voit que Dieu lui-même peut visiter, peut assurer une certaine présence au séjour des morts. Au séjour des morts, t'y voilà. C'est-à-dire que là, le psalmiste voit qu'il ne peut pas échapper à Dieu. S'il monte aux cieux, Dieu y est, mais même s'il va au séjour des morts, eh bien, il n'échappera pas au regard de Dieu, à la connaissance de Dieu sur lui. Nous avons le livre des Proverbes, 23, 13, 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Là, c'est déjà un peu plus clair, parce que il ne peut pas être question de lui épargner la mort du corps. Donc, le séjour des morts n'est pas le sépulcre. Vous voyez ici, ça n'est pas équivalent au sépulcre. Tu délivres son âme du séjour des morts. Tu délivres donc son âme d'une emprise redoutable, d'une destinée qu'il faut absolument éviter. C'est déjà l'idée de salut apparaît déjà là, n'est-ce pas, apparaît. Mais vous voyez, ça n'est pas dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de déclarations qui sont simples, mais qui ne sont pas explicites. Elles laissent transparaître la notion, l'idée qui va au cours de la révélation se préciser. Nous avons toujours dans les Proverbes, chapitre 27 et verset 20, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Il est dit que le séjour des morts ne dit jamais assez. Assez. Il ne dit jamais assez. Il est présenté comme cet abîme, ce gouffre qui veut toujours engloutir, qui désire des vies. On a présenté quelquefois la mort sous l'aspect d'un être décharné, muni d'une faux, et qui vient faucher les vies, et qui a besoin de prendre les vies. C'est ainsi que la mort nous est présentée, et nous verrons la raison de cette pensée, de cette idée qui se fait jour dans la Bible, non pas la faux, non pas le squelette avec la faux, mais cette ardeur insatiable du séjour des morts. Dans le livre d'Ésaïe, alors nous avons quelque chose de plus net au chapitre 14, et au verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs. Ah, c'est autre chose que le sépulcre, cela. Pour t'accueillir à ton arrivée. Là, il s'agit du roi de Babylone. C'est une prophétie contre lui. Il réveille devant toi les ombres. Alors, les morts sont considérés là comme des ombres. Les âmes des morts, pas leur corps, bien sûr, les ombres. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Alors ça, évidemment, c'est l'évocation de ce qui se passe dans le sépulcre lui-même, où toute cette vermine vient dévorer la chair du corps qui y est couché, mais c'est une évocation tout de même qui ne peut pas permettre, comme certains ont voulu le faire, d'assimiler le séjour des morts à un simple sépulcre. Et nous voyons ici que ceux qui sont dans le séjour des morts prennent la parole leur est donnée, ils s'expriment. Eh bien, s'il n'y avait pas donc dans le séjour des morts une conscience chez ces ombres, chez les âmes qui s'y trouvent, le texte biblique nous induirait en erreur, ce qui est impensable. D'autre part, pensons que le Seigneur Jésus lui-même, dans sa parabole du riche et du pauvre Lazare, va nous montrer le riche qui lui est descendu dans le séjour des morts, dans le Hadès, où il souffre. Ah, où il souffre, il est lui, il a sa part avec les méchants, avec les infidèles, avec les indifférents qui ont joui sur la terre, ne se préoccupant pas de leur âme, de Dieu, et alors là, il est là, il souffre, il parle, il s'exprime, et Jésus même suppose qu'il lui est possible d'appeler Abraham. Bien sûr, ça c'est pour les besoins de la parabole. Mais enfin, tout de même, Jésus nous a montré qu'il y avait dans le séjour des morts une conscience. Et cela, c'est le fait, par conséquent, de ce que nous appelons et de ce que Jésus même a appelé, on pourrait dire brièvement, sommairement, sans entrer dans le détail, ce qu'il a appelé l'âme. Parce que si l'on entre dans le détail, on verra que l'homme est constitué de trois parties, corps, esprit, âme, et alors là, ça complique le problème. Mais on n'est pas obligé dans la Bible de toujours envisager cette constitution de l'homme, constitution trialistique, en trois éléments soudés les uns aux autres, bien sûr, mais souvent, on n'envisage que son corps et son âme. Jésus l'a fait, n'est-ce pas, son corps et son âme. Et Jésus nous montre que l'âme, elle, peut avoir une destinée tout à fait différente de celle du corps. Le corps peut être tué, détruit, sans que l'âme aille, elle, pour autant aussi, au lieu de la mort, au lieu de souffrance. L'homme possède en lui le dynamisme de la vie. Cela, nous le voyons partout, dans toute la Bible, Dieu lui a donné, et c'est normal, ça appartient même, disons, à la vie. Quand Dieu donne la vie, avec la vie, il donne un besoin de garder la vie. La vie dispose d'un dynamisme. Là où elle s'établit, elle veut rester. Et l'être qui a reçu cette vie, qui possède cette vie, veut la garder, ne veut pas la perdre. Il faudrait que ce même dynamisme de la vie, ce même, comme on dit quelquefois, instinct de conservation de la vie, nous anime, nous, beaucoup plus pour la vie véritable, c'est-à-dire, si vous voulez, la vie de notre âme, la vie éternelle, que pour la vie physique. Le malheur, souvent, même dans nos rangs à nous, les disciples du Seigneur Jésus, c'est que nous restons comme le monde, beaucoup plus attentif à notre vie physique qu'à la vie future. Et il arrive volontiers que nous sacrifions même les intérêts supérieurs de la vie future, de la vie éternelle, en vue de mieux assurer, pense-t-on, ou en vue de conserver peut-être, ou de gâter davantage notre existence physique. Eh bien ça, c'est un péché. Ça, c'est une manière d'être et de penser qu'il faut absolument que nous abandonnions par la grâce de Dieu. Mais malgré cet instinct de conservation de la vie, cet instinct, ce besoin de conservation qu'a la vie, malheureusement, la mort qui est l'intruse, avons-nous dit, a la puissance de le saisir, et sa puissance, la puissance de la mort, nous avons dit, vient du péché, c'est le péché qui en réalité a de la puissance, et si bien que cette mort prend l'homme, il ressent sa mort comme un mal, comme une issue absolument indésirable. Et l'homme, la Bible nous le dit, je fais là un peu une analyse de l'Ancien Testament, l'homme pressent dans le fait de la mort l'action d'une puissance mauvaise. La mort n'est pas chose bonne. On a dit souvent que dans l'Ancien Testament, il y avait une acceptation en général, de la mort. Mais c'est une acceptation parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il n'empêche que dans l'Ancien Testament, on voit bien que l'homme n'est pas heureux de la mort, mais qu'il y voit au contraire une puissance contraire à son bien, mauvaise. Et c'est vrai. Et cela est vrai, c'est une vérité qui se dégage là de la Bible, n'est-ce pas? Parce que, en effet, la puissance qui agit, c'est celle du péché. L'homme est aux prises avec une force hostile, avec un ennemi. Et la Bible elle-même appellera la mort un ennemi, le dernier ennemi. Un ennemi, c'est un ennemi. Alors, ne tergiversons pas, la Bible est nette là-dessus, c'est un ennemi, et toujours, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, la mort est considérée comme une chose mauvaise, il faut la subir bien, Dieu en tirera, nous le verrons, un parti, Dieu va tirer un parti de la mort, Dieu va se servir de la mort, nous verrons comment, mais il n'empêche qu'en elle-même, elle est une puissance, une hostile. La vie de l'homme, donc, est en échec, et cela de par un verdict de Dieu, et le péché appelle sans cesse jugement de Dieu, et il justifie le jugement de Dieu. Le péché appelle ce jugement de Dieu en ce verdict qu'est la mort, le péché mène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, dit-on dans le Nouveau Testament. Oui, c'est-à-dire que le péché appelle constamment à la mort. Le péché est un, si vous voulez, un courant général qui entraîne nécessairement les hommes porteurs de vie. Eh bien, il les entraîne vers la mort, vers cette mort qui est un verdict de Dieu, donc un jugement de Dieu. Et la mort justifie le jugement de Dieu, car Dieu ne pouvait pas prononcer un autre jugement que celui-là. Dès que l'homme apparaît sur la terre, il découvre sa liberté. Il apparaît petit enfant, il découvre très tôt sa liberté, inconsciemment d'abord. Il n'en discute pas philosophiquement, mais un petit bébé, tout petit bébé, commence à découvrir sa liberté. Dès qu'il peut faire quelque chose, agir, faire quelque chose, ben, il découvre sa liberté. Et sa liberté, elle va tout de suite dans les événements de la vie, si petit soit-il pour un enfant, pour un bébé, eh bien cette liberté va être tout de suite mise à l'épreuve. Et l'homme, devant cette épreuve, immédiatement va fléchir, et nous verrons pourquoi, va fléchir comme Adam a fléchi, car une puissance se saisit de lui. Une puissance est là qui se saisit de lui. Et cela est tellement vrai que celui qui a été le sauveur, qui est le sauveur des hommes, lorsqu'il est venu sur la terre, il fallait qu'il vienne dans une chair semblable à celle du péché, dans une chair exactement semblable à la nôtre, moins le péché, il fallait qu'il fût un germe juste, dit Jérémie, et pour cela, eh bien, Dieu l'a fait naître, même dans sa partie corporelle, n'est-ce pas, l'a fait naître sans père humain, sans qu'il y ait hérédité paternelle. Dieu est intervenu par son esprit, et pour lui donner tout de même participation à la chair d'Adam, à la chair des hommes, pour le faire entrer dans la masse humaine, il fallait une mère. Il fallait qu'il soit né de femme, n'est-ce pas, une mère, mais pas de père humain. Eh bien, nous voyons cela, cette puissance, dans Romains 7, l'apôtre Paul, ici, l'a situe très bien, Romains 7, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Je prends plaisir. « Mais je vois dans mes membres, dans mon corps donc, et même dans mon âme, l'âme étant le propriétaire du corps, l'âme étant tellement liée à la chair, « mais je vois dans mes membres une autre loi » qui lutte contre la loi de mon entendement, si vous voulez, ici le mot loi a surtout le sens de puissance, une autre force, une autre force qui lutte contre la force de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Me rend captif, captif. Quand Jésus viendra, il délivrera des captifs. Essentiellement, ces captifs-là, les captifs de la loi du péché ou de la puissance du péché. La puissance, c'est lui qui est puissant, le péché. Puissance du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est bien le corps qui est, lui, le siège de cette puissance. Cette puissance de péché, elle agit dans l'âme et dans le corps, elle se sert du corps. Nous avons dit l'autre jour que les démons cherchaient toujours un corps parce qu'ils veulent assouvir leurs envies et leurs convoitises par le moyen d'un corps. Il leur faut un corps. Eh bien, de même, le péché va assouvir, lui, les convoitises qui l'excitent, qui l'appâtent, par le moyen d'un corps. C'est pourquoi, conscient de cela, l'apôtre Paul dit qu'il me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, c'est-à-dire, je suis bien là, dépendant de la loi de Dieu, et je suis par la chair, du côté de cet être de chair, mais l'âme, je le dis, elle est complice de la chair, et je suis par la chair esclave de la loi ou de la puissance du péché. Eh bien, l'homme va naître esclave, esclave de la puissance du péché. Et cette puissance, le péché, l'apprête à la mort. C'est-à-dire, le péché, lui, converge vers cette conclusion qu'est la mort. C'est une conséquence inéluctable du péché. Alors, le péché a une puissance, il s'accumule, il agit, il continue d'agir, et nécessairement, il ouvre la porte à ce qui ne peut être que la fin, c'est-à-dire la mort. Ainsi, par la puissance du péché en lui, l'homme est aux prises avec la mort. Homme pécheur, il a en lui la mort, et l'Écriture dira même, il est mort. Il est mort parce qu'il a en lui la mort. Il a la mort en lui, il a le péché, il a la mort. Là, on dit l'autre jour, avec 1 Corinthiens 15, 55, que le péché, c'est lui qui a la puissance. La mort se sert, en somme, est actionnée par la puissance du péché, et le péché lui-même, j'ai expliqué comment, emprunte, lui, sa puissance à la loi de Dieu. Ah, il agit contrairement à la loi de Dieu, et c'est de là que lui vient sa puissance. Eh bien, alors, l'homme dans cette situation, l'homme pécheur, est mort. Nous naissons, en somme, morts dans un sens, dans un autre sens, nous naissons morts. Il nous semble que nous naissions à la vie, nous naissons à une vie qui, cependant, est déjà visitée par une puissance de péché, donc une puissance de mort. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, autrefois, avant d'être convertis. Maintenant, vous ne l'êtes plus. Ah! Délivré de la mort, n'est-ce pas? Vous ne l'êtes plus. Dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Eh bien, cela nous amène à considérer par conséquent le péché qui est, lui, le fauteur de la mort, qui est, lui, la puissance qui fait intervenir la mort. On dit que le péché, généralement, est la transgression de la loi. C'est vrai, le péché est cela. Mais c'est un peu trop sommaire, cela. Il faudrait tout de même voir plus loin. Et, mes amis, dans l'Église, maintenant, pour notre bien, pour progresser, nous avons besoin d'une connaissance bien plus éclairée du péché que nous n'avons. Notre connaissance est trop juste, trop sommaire, trop rudimentaire. Et sans doute, nous n'avons pas suffisamment, par méditation de la Bible, vu clair sur toute l'étendue de ce mal qu'est le péché. Nous n'avons pas vu dans des situations qui sont les nôtres, quelquefois de temps, et ces situations mouvantes au travers de l'existence, nous n'avons pas pu souvent discerner l'état de péché. Et pourtant, il y était. Alors, nous n'avons pas vu que nous étions dans bien de ces situations des offenseurs de Dieu. Offensions Dieu. Et nous n'avons pas compris, par conséquent, que nous empêchions sa bénédiction. Et nous nous sommes questionnés, nous sommes dit pourquoi, il me semble que tout va bien dans ma vie, il me semble que je n'ai rien à me reprocher, il nous semble que ma conscience est nette. Et nous étions, et nous sommes, dans des situations qui ne peuvent pas se voir par les regards de Dieu, les yeux de Dieu, autrement que comme situation, que comme état de péché. Des états de péché, c'est-à-dire des états, nous allons voir, de résistance, des états d'ignorance, quelquefois, et ignorance de la volonté de Dieu, des états de résistance. Alors, dire que le péché est la transgression de la loi, c'est vrai, mais c'est trop sommaire. La loi, nous la voyons surtout comme la loi de Moïse, surtout comme le décalogue, loi morale, essentiellement, et puis nous n'allons pas beaucoup plus loin. Alors, il faut tout de même voir les choses plus à fond. Cette transgression de la loi, qu'est le péché, en effet, eh bien, elle résulte d'un comportement de l'homme, d'un comportement général, d'un comportement d'ensemble de l'homme qui est faussé. Ce comportement de l'homme est faussé. Sa conduite, si vous voulez, est faussée par rapport à la volonté objective de Dieu. Et la loi nous éclaire, nous montre, nous dit la volonté de Dieu. Mais attention, la loi dans un sens large, la loi parfaite, la loi royale, pas la loi, pas le décalogue seulement. Alors, c'est donc le comportement de l'homme qui est faussé par rapport à la volonté objective de Dieu. Dès qu'il y a désaccord entre un comportement et ce que voudrait Dieu et ce qui est la volonté de Dieu, il y a péché. L'apôtre Paul nous montre bien ces choses. Un comportement, en somme, qui résulte chez l'homme d'une pensée obscure, d'une pensée étrangère et opposée à la pensée de Dieu. Pensée obscure. C'est pour ça que pour faire des progrès et pour évincer de soi, de sa conduite, de son comportement, de son mode de vie, pour évincer les états de péché, les situations qui nous mettent encore dans un état de péché, il faut être éclairé. Parce que l'homme n'est pas un automate, et Dieu le veut saint dans l'intelligence, et par l'intelligence. Dieu ne veut jamais faire de nous un automate. Attention, gardons-nous de penser ça. Dieu ne fera pas de nous un automate. Il détruirait notre nature même, le plan créateur qu'il a lui-même brossé au départ. Et voyons un peu dans l'Ancien Testament, rapidement, les mots qui nous signalent précisément les caractères que revêt le péché. Le péché au singulier. Il faut d'abord voir le péché. Les péchés sont des fautes, des actes qui découlent du péché, c'est-à-dire d'un mal qui est dans l'homme. Eh bien, voyons rapidement quelques mots de l'Ancien Testament. Il y a par exemple Hata, qui est une faute, un manquement, une défaillance par rapport à une conduite que Dieu voudrait, que Dieu désire, C'est une autre conduite, c'est une conduite qui n'est pas celle que Dieu désire, c'est une défaillance, un manquement par rapport à une règle de conduite. Vous savez que l'apôtre Paul parle d'une règle de vie, eh bien c'est ça, une règle de conduite définie par Dieu, voulue par Dieu. Ah, il faut savoir quelle est cette règle de vie, cette règle de conduite qui correspond à la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui est manquement est bien dans l'Ancien Testament vu comme péché. Il y a aussi avant qui est un égarement loin de la voie juste, loin de la voie de Dieu. C'est un détournement. On marche, mais dans une direction qui s'éloigne de la direction où Dieu voudrait l'homme. Il y a Pesa, qui est une résistance à Dieu, la résistance à Dieu, une résistance du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est dur. Le cou roide, c'est le cou roide des Hébreux, le cou roide qui résiste à Dieu. Voilà, toute résistance à Dieu étant donc péché. Il y a Sarar, qui est un verbe signifiant « se révolter ». Il y a Mara, qui est un verbe aussi, et qui signifie être rebelle à Dieu. Vous voyez, il y a différents mots, il y en a plus que je n'en citerai d'ailleurs. Il y a Bagad, qui est un verbe, être infidèle. Il y a un qualificatif, qui est Raza. Ce qualificatif situe le pécheur dans sa culpabilité et dans son impiété. Le pécheur est vu comme un coupable et un impie. Il y a le mot « ra » qui signifie le mal du verbe « ra ». Le verbe « ra », d'où vient le mot « ra », le mal. Le verbe « ra » signifie « briser, corrompre ou détruire ». Voilà, voilà l'action du mal, voilà le mal. Il y a le mal, n'est-ce pas, est là installé, il brise, il détruit, il s'attaque à la vie. Il y a Aven, qui est l'iniquité, il y a Sav, qui est la vanité, plus ou moins bien prononcé, enfin peu importe, la vanité. Tout cela qualifie, vous le voyez, les différents aspects du comportement de l'homme se plaçant en dehors de la volonté de Dieu. Donc, en dehors de la vie. Si je suis en dehors de la volonté de Dieu, je suis en dehors de la vie, je suis dans l'empire de la mort. C'est pourquoi l'homme pécheur marche, c'est-à-dire vit sur cette terre, dans une voie mauvaise, c'est-à-dire dans une voie autre que la voix de Dieu. Et ce comportement engage la responsabilité de l'homme, bien que celui-ci ne puisse pas résister à la puissance du péché. C'est un problème assez délicat, celui-là. Il y a responsabilité. Dieu voit l'homme responsable. Pas toujours au même degré. Pas toujours au même degré. Et pas qu'il y ait des péchés plus graves que les uns que les autres, ça c'est une invention de la théologie catholique. Mais il y a des degrés de responsabilité, le Dieu est juste, mais l'homme est toujours, lui, responsable devant Dieu. Bien que l'homme, je l'ai dit, ne puisse pas résister à la puissance du péché. Mais Dieu lui-même examine l'homme tel qu'il est depuis la chute, il examine l'homme, il le regarde, il voit tous les fils de l'homme, un par un, aucun ne lui échappe, et il intervient dans un certain sens qui doit permettre à l'homme de vivre autrement qu'il ne vit, et peut-être d'être déjà en grande partie soustrait à l'empire du péché. Et l'homme constate Dieu, constate qu'en fait, l'homme est vraiment mauvais depuis sa naissance. Voyez ce que dit Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur, c'est lorsque Noé bâtit un autel à l'Éternel. Alors il sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Monsieur Edgar Faure n'a pas dû lire ça, ou il n'y croit pas. Parce que lui, pour lui, l'homme est bon depuis sa jeunesse. N'a pas dû lire ça. Hein? On ne croit pas à ça. C'est un humaniste. Par conséquent, il ne croit pas. Il est parti sur une autre idée, lui. L'homme est bon. C'est la société qui le rend méchant. Alors, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Si bien que Dieu, a fait une alliance de vie, non seulement avec Noé, mais avec tout ce qui a vie sur la terre, et là, Dieu fait part de sa résolution à ce moment-là, après le déluge, il fait part de sa résolution d'intervenir. Il va faire quelque chose. Donc c'est là déjà une nouvelle ouverture du salut. Dieu va intervenir, sans quoi il n'aurait qu'à détruire tout. Il aurait pu détruire Noé aussi, tout le monde, et se défaire entièrement de cette race humaine. Mais pas du tout. Il l'a conservé en la personne de Noé et de sa descendance. Et il reconnaît tout de même que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et Dieu constate. Il a, en somme, laissé l'expérience se faire. Dieu, souvent, agit ainsi, laisse l'expérience se faire. Et voilà le résultat de l'expérience. Les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Mais la Bible nous montre aussi quelque chose de très surprenant et qui semble même aller à l'encontre de ce que nous venons de voir. C'est que, malgré qu'aucun homme n'ait été exempt du mal intérieur qu'est le péché, aucun homme n'en a été exempt, aucun, à l'exception du Christ, malgré cela, il s'est trouvé des hommes qui ont tranché sur la masse humaine au jugement de Dieu, au regard de Dieu, aux yeux de Dieu, ils ont tranché, et ces hommes-là ont été qualifiés, sont qualifiés dans la Bible de justes, d'hommes justes. Ce sont, par exemple, Enoch, c'est Noé, appelé juste dans le Nouveau Testament aussi, Abraham, Moïse, Job, Daniel, et même David, le prophète Élie, voilà un certain nombre d'hommes qui sont qualifiés justes. Voyons cela dans Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, ici il n'en est que trois, mais il y en a d'autres, trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Sauverait leur âme. Alors là, leur âme, ça veut dire, n'est-ce pas, qu'ils échapperaient à la mort éternelle. Ça veut dire qu'ils échapperaient à la mort éternelle. Cela résulte de l'ensemble de la Bible, du message de la Bible, n'est-ce pas ? Ils sauveraient leur âme par leur justice. Ça peut, nous, aujourd'hui, nous nous surprendre un petit peu, ils sauveraient par leur justice, alors nous sommes toujours, nous, à châtier la propre justice, évidemment, la propre justice de l'homme, c'est une chose qu'il faut bannir, hein, il faut en délivrer les hommes, c'est vrai. Mais, s'il vous plaît, laissons chaque partie de la Bible nous parler comme elle entend nous parler. Il faut prendre tout le message, c'est vrai, mais ici, ils sauveraient leur vie, leur âme, par leur justice, c'est-à-dire par cet état de justice dans lequel ils sont, et cela à la vue de Dieu. Alors, comment concilier cela, leur justice, leur état de justice, avec le fait que tout homme est pécheur, c'est réaffirmé dans le Nouveau Testament, tout homme est pécheur, alors ils ont été eux aussi pécheurs, nous ne le voyons pas beaucoup pour certains, comme par exemple pour le prophète Daniel, nous ne le voyons pas pour Hénoc, nous le voyons pour Abraham, nous le voyons pour Moïse, nous le voyons pour David, nous l'avons vu même aussi un peu pour Élie, il y a un affaiblissement qui est par conséquent quelque chose en dehors, si vous voulez, à proprement parler de la justice, d'un état de justice, mais nous ne le voyons pas toujours. En tout cas, lui, Dieu le voit, ils sont tous, eux, des hommes de la même espèce que nous et pécheurs. Mais leur justice, qu'est-elle? Eh bien, leur justice est une tendance de leur marche, et non pas un état absolu d'immunité quant au péché. Ça ne veut pas dire qu'ils soient exempts du péché, mais ce sont des hommes qui se sont engagés dans une marche, et cette marche a un sens, toujours le même, une signification, même s'ils ont trébuché sur une pierre et ont pu se blesser. Ils ont repris leur marche et ils étaient animés par une foi qui les faisait toujours reprendre la marche dans un même sens, dans le sens qui plaît à Dieu, et c'est cette tendance à leur marche qui leur est reconnue comme une justice, un état de justice. Accidentellement, ils peuvent se trouver en faute. Je prends le cas de Moïse quand il s'est énervé un petit peu devant le peuple et que Dieu lui a dit, eh bien, voilà ma sanction, c'est pas toi qui feras entrer le peuple dans le pays de la promesse et tu mourras avant. Eh bien, c'était peut-être à nos yeux peu de choses, mais enfin, c'était une faute, c'était une offense à Dieu, il avait manqué à honorer Dieu devant le peuple, c'était une faute, eh bien il se trouvait en faute, cependant Moïse sera reconnu ensuite comme un homme fidèle, David sera reconnu comme un homme fidèle, Abraham nous sera montré comme le père des croyants, ben vous savez. Alors lui, c'était pas très beau tout de même ce qu'il a fait quand il était en Égypte et puis qu'il voulait faire passer sa femme pour sa sœur parce que il disait elle est belle de figure et si on sait que c'est ma femme, on va me faire mourir pour me la prendre, tandis que si je suis son frère, on me laissera la vie, on me laissera bien tranquille, hein, on peut pas être très joli tout ça, hein. Et ça, c'est loin d'être approuvé de l'Éternel. Mais cependant, tout compte fait, lorsque, après la vie de ces hommes, viennent les appréciations bibliques, les appréciations inspirées, eh bien, Abraham nous est montré comme un juste. C'est un juste. C'est un juste. Et à cause de sa foi, la justice lui fut imputée par le Seigneur. Nous arrêterons là notre étude ce matin.